toujours à l'écoute de Radio France Internationale, il est 15h ici à Paris, 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. On continue de décrypter les programmes des candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis. On s'intéresse aujourd'hui à la politique étrangère qu'ils comptent mener. Un dossier également consacré à la situation en Haïti. Un hélicoptère du PAM, du Programme Alimentaire Mondial, touché hier par une attaque de gang à Port-au-Prince. Et puis l'actualité des Outre-mer, on ira en Martinique puisque le RPRAC et les syndicats main dans la main ce vendredi matin pour défiler ensemble contre la vie chère, Benoît Ferrand.
Oui, le rassemblement contestataire et certains syndicats partagent le même point de vue sur l'accord conclu la semaine dernière. C'est du vent. Nous entendrons tout à l'heure l'avis tranché d'une syndicaliste martiniquaise.
On vous appelle dans 20 minutes. À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et d'abord le journal avec Gilles Moreau et à la une la campagne présidentielle américaine. Et hier jeudi, le camp démocrate a tenté de créer l'événement.
Oui, tous les projecteurs étaient braqués vers Atlanta, dans l'état clé de Georgie, l'un de ceux qui devraient faire la différence le 5 novembre. On a vu sur scène des vedettes du cinéma et de la chanson comme Bruce Springsteen, mais surtout un ancien président, Barack Obama, venu en soutien de Kamala Harris, qu'il espère voir lui succéder bientôt, envoyé spécial Guillaume Nodin.
Personne ne le conteste, même chez les républicains. Barack Obama est l'un des meilleurs orateurs de son temps. Ce charisme, il l'utilise pour enflammer les 20 000 personnes présentes à Atlanta, pour voir ce qui ressemble beaucoup à un passage de témoin. Elizabeth Johnson, une avocate à la retraite et militante démocrate de toujours, elle constate l'évolution des mentalités.
Obama a donné la possibilité aux gens de voir une personne de couleur dans ce rôle de dirigeant. Exactement comme Hillary Clinton a permis aux gens de commencer à voir une femme dans ce même rôle. Pour casser les plafonds de verre, si on les appelle comme ça, il faut que quelqu'un le fasse en premier. Le pays a avancé de bien des manières grâce à Obama. Nous sommes plus proches que jamais d'un système de santé universel. Nous avons toute une génération de gens qui ont grandi en voyant un Afro-Américain comme président. Et ça veut dire que ce n'est plus une première, et ça c'est énorme. Et donc, elle peut faire des choses qu'il ne pouvait pas faire.
Encore faut-il pour cela que Kamala Harris soit élue le 5 novembre, ce qui n'est pas gagné d'avance au vu des sondages. Guillaume Nodin, Atlanta. RFI.
Les sondages, justement, d'après l'un des derniers, une enquête Reuters Ipsos, Kamala Harris et Donald Trump sont donnés au coude à coude compte tenu de la marge d'erreur, notamment dans les 7 états clés, les états pivots. À une dizaine de jours du vote, la première est créditée de 46% des voix contre 43% pour le candidat républicain. Elon Musk est l'une des vedettes de la campagne de Donald Trump. Il discute aussi avec Vladimir Poutine. Le Wall Street Journal révèle que le milliardaire patron de la messagerie X a été en contact de multiples reprises avec le président russe, avec d'autres responsables du Kremlin. Ils ont échangé sur des sujets politiques sensibles comme l'Ukraine et Taïwan. Julien Chavanne.
Le coup de fil a lieu l'an dernier, raconte une source du renseignement russe citée par le Wall Street Journal. Au téléphone, Vladimir Poutine demande à Elon Musk de ne pas activer son système de satellite Starlink au-dessus de Taïwan pour faire plaisir à la Chine. Les deux hommes auraient aussi parlé de l'Ukraine. Au début de l'invasion russe, le patron de Tesla et de SpaceX était un fervent défenseur de Kiev. Mais depuis un an, son discours a changé. Il soutient désormais un plan de paix qui ressemble beaucoup à ce que souhaite le Kremlin. Ses contacts posent évidemment des questions de sécurité. Elon Musk a accès à des informations top secret du Pentagone. Il a la main sur l'influent réseau social X et il pourrait jouer un rôle dans le futur gouvernement en cas de victoire de Donald Trump. D'après le journal américain, Washington est au courant de ces échanges mais n'a pris aucune mesure. Elon Musk et le porte-parole du Kremlin ont démenti ces informations en ne reconnaissant qu'un seul appel en avril 2021.
À Gaza, la défense civile fait état d'au moins 20 morts dans deux frappes israéliennes la nuit dernière sur Khan Younes dans le sud du territoire palestinien. Parallèlement, l'espoir d'une trêve est de retour. Tandis que le Hamas se dit ouvert à des pourparlers, Israël annonce l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza comprenant des libérations d'otages.
Et pendant ce temps-là, Gilles Moreau, au Liban, l'armée israélienne continue de resserrer son étau.
Il était tôt ce matin quand un raid israélien a visé le poste frontière d'Al-Qua, point de passage entre la Syrie et le Liban. Il est désormais inaccessible. accessible pour tous les véhicules, les voitures comme les camions chargés d'aide. Depuis le début du mois, c'est le deuxième poste frontière attaqué par l'aviation israélienne, sachant que le Liban n'en compte que trois. Les précisions de Guilhem Deltaï.
La frappe israélienne a visé le côté syrien du poste frontière. Selon le ministre libanais des Transports, l'explosion a eu lieu à des centaines de mètres des gardes-frontières. Il n'évoque pas de victimes, mais le point de passage est désormais hors service, assure-t-il. Le 4 octobre, Israël avait déjà bombardé la route menant au poste frontière d'Al-Masnaa sur le principal axe routier entre les deux capitales, Beyrouth et Damas. Tel Aviv affirme qu'elle était utilisée par le Hezbollah pour transférer des armes depuis la Syrie, mais ces deux frappes ne laissent désormais plus qu'un seul poste frontière ouvert. Or, la Syrie est le seul pays avec lequel le Liban partage une frontière terrestre franchissable. Le bombardement de ces points de passage renforce donc son enclavement et renforce sa dépendance vis-à-vis de ses ports, Beyrouth et Tripoli, et de son seul aéroport que la plupart des compagnies aériennes ne desservent plus. Un enclavement accru alors que des centaines de milliers de civils fuient les bombardements israéliens et que les besoins humanitaires du Liban ont augmenté.
Guilhem Deltaï, cela fait un peu plus d'un an qu'ont commencé les échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël. Le ministre libanais de la Santé évalue à 163 le nombre de secouristes et de soignants tués dans les frappes israéliennes à travers le pays. Au sujet encore du Liban, le chef de la diplomatie européenne évoque une course contre la montre pour éviter un embrasement. Abaissement ou bien statu quo, l'agence de notation Moody's donnera ce soir, après la clôture des marchés, sa note de la dette souveraine de la France, pays fragilisé par la dérive de ses comptes publics. Un abaissement est redouté en plein débat parlementaire sur le projet de budget 2025. Dans ce débat, les députés ont adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, visant à créer un nouvel impôt sur le patrimoine des plus riches. Il revient à taxer à hauteur de 2% la fraction supérieure de patrimoine des foyers qui dépasse le milliard d'euros.
On reste en France, Gilles Moreau, puisque ça fait débat dans la société. Notre-Dame de Paris, la cathédrale, va bientôt rouvrir. Ce sera au début du mois de décembre, mais l'entrée, elle sera peut-être payante.
Oui, c'est en tout cas l'idée défendue par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle suggère de débourser 5 euros pour avoir le droit de visiter la cathédrale, monument emblématique de Paris. Une proposition qui fait polémique à Rambeng.
Cette idée de Rachida Dati, si elle est retenue et appliquée, permettrait selon elle de collecter 75 millions d'euros par an, ce qui pourrait servir à l'entretien et à la restauration de tous les lieux de culte qui coûtent cher à l'État et aux communes. Mais pour que cette proposition soit applicable en France, il faudrait tout d'abord changer la loi 1905 régissant les lieux de culte. Outre ce volet législatif, il faudrait également revoir toute l'organisation de l'accès à la cathédrale, à savoir mettre en place deux entrées distinctes, une pour les fidèles qui viennent prier et une autre pour ceux qui viennent juste visiter le monument. Des procédures qui peuvent prendre du temps avant leur mise en place, ce qui fait dire à la ministre de la Culture qu'une entrée payante à Notre-Dame de Paris ne serait pas effective avant 2026. En réaction à cette proposition, l'archevêque de Paris affirme dans un communiqué publié ce jeudi son opposition et rappelle que les lieux de culte doivent rester gratuits pour tous. Une exception tout de même en France, si la visite du Mont Saint-Michel est gratuite, il faut débourser 11 euros pour contempler son abbaye.
Enfin, 5 ans après la crise des Gilets jaunes, la justice française ordonne un procès devant la Cour criminelle de Paris. Le procès d'un policier soupçonné d'avoir éborgné un manifestant à l'aide d'une grenade lacrymogène. Ce policier sera jugé pour, je cite, « violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par une personne dépositaire de l'autorité publique ». Il est pile 15h09 ici à Paris, l'heure de retrouver Stéphane Genest.
C'était le journal avec Gilles Moreau et il est 9h09. À Atlanta et à Washington.
USA 2024.
When we fight, we win.
We will make America great again.
La campagne présidentielle américaine qui se poursuit. Kamala Harris était en Géorgie hier. La candidate démocrate qui a été soutenue par la légende américaine du rock Bruce Springsteen et l'ancien président démocrate Barack Obama. Et vous le savez, on décortique les programmes des candidats à l'élection présidentielle américaine en J-11 avant le vote. Et on s'intéresse aujourd'hui à la politique étrangère que ces deux candidats comptent mener. Et cette question, quel visage va-t-elle prendre après le scrutin du 5 novembre? Eh bien, on fait le point avec vous, Abla Jonaïdi. Bonjour Abla.
Bonjour Stéphane.
Et derrière cette question, c'est celle du leadership américain dans le monde qui se pose finalement.
Oui, deux visions du monde s'affrontent. On l'a vu lors de leur unique débat le mois dernier. Pour Donald Trump, c'était une nouvelle occasion de fustiger le bilan de l'administration démocrate. Une succession de guerres coûteuses au Proche-Orient, en Ukraine, selon l'ancien président, et qui contribue au déclin de l'Amérique, idée chère aux candidats républicains.
Donald Trump l'assure, s'il est réélu, il mettra fin au conflit en cours.
Avant même sa future investiture, même comme président, les armes se tairont entre la Russie et l'Ukraine, prétend l'ancien président, sans dire précisément quelle méthode il emploierait. C'est sur le conflit Russie-Ukraine que les divisions sont les plus visibles entre les deux candidats. Pour Kamala Harris, son adversaire ne ferait rien d'autre que de se plier aux volontés de la Russie en abandonnant l'Ukraine au mépris du droit international. Elle ne s'avance pas davantage sur la résolution du conflit, mais elle promet de poursuivre le soutien militaire à Kiev le temps qu'il faudra, dans la continuité de l'actuelle administration.
Une continuité, Abla Jonaïdi, qui vaut aussi pour le Proche-Orient.
Contrairement à Joe Biden, Kamala Harris s'est dite sensible au sort des Palestiniens, alors qu'on déplore plus de 42 000 morts dans la guerre à Gaza. Mais elle a avoué dans une interview, elle ne changerait rien à la politique étrangère du président démocrate, en particulier sur le soutien à Israël. La candidate démocrate n'a pas dit si elle envisageait de faire évoluer cette ligne si elle est réélue. Cela vaut pourtant à son parti de perdre des soutiens, notamment parmi les jeunes et la communauté musulmane, dans des états clés pour l'élection comme le Michigan.
Et si elle est élue, Abla, on l'imagine, elle devra forcément imprimer sa propre marque.
Les commentateurs cherchent des indices dans son profil. Une ancienne procureure d'origine indienne et jamaïcaine, elle serait forcément attachée au droit, à la coopération sur les enjeux globaux plutôt qu'à l'affrontement direct comme Donald Trump. Elle chercherait à renforcer les alliances en Europe face à la Russie, en Asie également face à la Chine, alors que son rival Donald Trump veut monnayer, lui, le soutien militaire de son pays. Kamala Harris a consacré une tournée à l'Afrique l'an dernier. Cela la différencie de son adversaire qui a insulté ces pays lorsqu'il était président. Mais en fait, Stéphane, on ne saura qu'à l'usage, si elle est élue, par le choix de ses conseillers notamment, ce qu'elle compte faire, comment elle envisage de se démarquer de Joe Biden.
Décryptage du programme, des programmes des candidats à la présidentielle américaine avec Abla Jonaïdi du service international de RFI. Voilà pour ces décryptages de cette semaine que vous retrouvez naturellement sur notre site RFI.fr. Environnement, immigration, économie notamment, tous ces sujets ont été passés au crible par la rédaction. Il est 15h12 ici à Paris.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Un hélicoptère du programme alimentaire mondial touché hier par une attaque de gang à Port-au-Prince. L'appareil a été obligé d'atterrir en urgence. Aucun des 18 passagers n'a été blessé. D'après le Miami Herald, des véhicules de l'ambassade américaine en Haïti ont également été visés par les gangs. L'ambassade américaine préparerait toujours, selon le Miami Herald, une nouvelle série d'évacuations de son personnel diplomatique. Illustration supplémentaire, en tout cas, de la tension à Port-au-Prince et des difficultés de la MMIS, de la mission multinationale d'appui à la sécurité de faire face. Aujourd'hui menée par le Kenya, les autorités haïtiennes demandent officiellement sa transformation en une mission de maintien de la paix des Nations Unies, demande adressée par courrier au patron de l'ONU, qui va dans le sens de l'ambition américaine, 4 mois après le déploiement des policiers kenyans qui n'ont engrangé aucun succès significatif. Et s'il y a des avantages au passage à une mission formelle onusienne, pour Lou Pinjot, professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa, le succès d'une telle opération n'est pour autant pas garanti.
On peut quand même imaginer qu'il y aurait un côté potentiellement positif, notamment en termes de transparence, parce que là, avec le modèle actuel, on est quand même dans un modèle assez opaque, où, par exemple, on ne connaît toujours pas les règles vraiment d'engagement de la mission. On a vu avec la mission actuelle que c'est un gros problème de trouver des volontaires pour financer la mission. Donc, si on passait sous une mission onusienne, il y aurait un budget alloué. Et il y aurait aussi une procédure de recrutement de policiers et de militaires, parce qu'on parle d'une mission policière, mais il y a quand même aussi l'idée d'envoyer des militaires. Et donc, on peut imaginer que cette formalisation probablement boosterait la présence de la mission sur le terrain. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que l'argument de vente de la MMAS, c'était que ce n'était pas une énième mission de l'ONU en Haïti. Qu'on soit retombé dans cette discussion, alors qu'au contraire, la mission était présentée comme n'allant pas vers ça. Bah, si c'est une énième mission de l'ONU en Haïti, pourquoi et comment elle réussirait où les missions précédentes n'ont pas réussi.
Du côté du Conseil présidentiel de transition, question. Est-ce qu'il y a un intérêt propre, voire personnel, à faire une telle demande?
Bon, si on regarde la mission précédente de l'ONU qui existait en Haïti, donc la MINUSTA, qui a été là de 2004 à 2017, c'était ce qu'on appelle une mission de stabilisation de l'ONU. Est-ce que ces missions ont en commun, comme il y a pu avoir au Mali ou en République centrafricaine, c'est que c'est des missions qui sont souvent en charge de soutenir le gouvernement en place contre de potentiels challengers, et notamment aussi avec un appui aux forces de sécurité de l'État. Donc à Haïti, ça serait la police, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'armée. Donc dans cette perspective, on peut assez facilement comprendre pourquoi des gouvernants peuvent apprécier l'idée d'avoir une telle mission. Si on regarde plus largement quel serait l'intérêt pour Haïti en général, on peut bien sûr s'interroger sur la capacité d'une telle mission à améliorer la situation sécuritaire. Oui, peut-être sur le court terme, ça peut amener une certaine forme de stabilité, mais en fait, sur le long terme, il n'y a pas de pérennité.
Lou Pangeot, interrogé par Michael Ponge pour RFI. On fait une rencontre à présent de votre journal d'Haïti et des Amériques. Rencontre avec Jimmy Jean-Louis. Il est né, il a grandi dans un bidonville d'Haïti. Il connaît à présent le succès à Hollywood. Le mannequin, acteur, réalisateur se raconte dans un récit qui vient de paraître aux éditions Récamier, récit qui s'appelle Héros. Héros, un clin d'œil à la série américaine Heroes qui l'a rendu célèbre. Jimmy Jean-Louis interprétait l'énigmatique René Lahissien. Mais l'acteur a aussi interprété le héros de l'indépendance haïtienne Toussaint Louverture, comme il a tourné dans ses films du monde entier, notamment africain. Sophie Torlotta a pu le rencontrer lors d'un récent passage parisien à l'ambassade d'Haïti. Jimmy Jean-Louis qui évoque son parcours de résilience.
Moi, je suis né à Pétionville et mon enfance était merveilleuse. Mon enfance était très roots parce que je suis quand même né dans un environnement où il n'y avait pas d'électricité ou de courante. Les valeurs suprêmes étaient les valeurs de l'homme, de la nature. Et sincèrement, j'étais très heureux.
Mais vous avez quitté Haïti à 12 ans, c'est
oui.
Ça, pour aller rejoindre votre mère qui travaillait en France. Est-ce que c'est le souvenir d'un arrachement, le souvenir d'une libération? Parce que quand même, retrouver sa maman, j'imagine que c'est important pour un enfant.
Oui, c'était un peu des deux, c'était plein de choses en même temps, parce que c'est vrai que c'était une époque où tout le monde voulait quitter Haïti. En tant que gamin, je ne savais même pas pourquoi je voulais quitter Haïti, mais c'est ce que tout le monde faisait. Et retrouver ma mère, c'était aussi bien en France. Sauf que quand je suis arrivé en France, je me retrouve dans un quartier très très gris.
Dans le Val-de-Marne, c'est ça, en banlieue parisienne?
Premièrement dans le Val-d'Oise, à Soisy, sous Montmorency. Donc c'était vraiment une vraie cité, avec beaucoup de béton. C'est vrai qu'on peut penser que Haïti, c'est pas génial, mais de l'autre côté, il y avait une qualité de vie qui avait beaucoup de contraste avec ce que j'ai trouvé à Paris. Il fallait s'en sortir parce que arriver en France, c'était devenu une vraie survie aussi. Et moi, j'ai dû me battre pour ne pas tomber dans un certain moule. J'ai passé une bonne dizaine d'années en France, à Paris, puis après j'ai dû partir parce que voilà, le système était beaucoup trop puissant pour moi.
Vos parents, eux, ils retournent à Haïti, mais vous, vous allez faire votre vie en Europe.
Oui.
Qu'est-ce qui vous animait? C'était déjà une fibre artistique ou c'était l'envie de découverte?
Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je ne savais pas trop où est-ce que j'allais, parce que quand mes parents sont retournés en Haïti, je suis resté seul en France avec mon frère. Bien entendu, il y a eu beaucoup de difficultés, des moments où voilà, j'étais même SDF, mais de l'autre côté, dans la dureté, dans la difficulté, c'est là qu'on arrive à trouver des forces pour essayer d'aller plus loin. C'était des boîtes presque tous les soirs. C'était
des boîtes de nuit?
Des boîtes de nuit, oui. C'était que ce soit le Palace, la Bain-Douche, le Central, l'Observatoire, le Globo, enfin bref, toutes les boîtes de l'époque, j'ai tout fait. Mais de l'autre côté, c'était un vrai apprentissage parce que là, j'étais dans un milieu artistique. Il y avait une vraie envie d'essayer de faire partie de ce monde. Donc, je me suis incrusté dans une école d'art, ça s'appelait Académie internationale de danse, où on nous apprenait à danser, chanter, jouer, faire de la musique. Et j'aurais dit que, vous inquiétez pas, mes parents vont payer hein, chaque fin de mois, et ils étaient sur moi. Et moi, je savais que ça allait pas durer, donc du coup, j'ai pris le maximum de cours que possible, jusqu'à ce que je me fasse jeter comme une malpropre. Mais de l'autre côté, voilà, c'était ça, fallait le faire. Il fallait faire ce qu'il fallait faire.
Puis après, Jimmy Jean-Louis, vous avez pas mal un peu bourlingué avant d'arriver à Los Angeles.
Quand je pars de Paris, c'était pour essayer de voir ce qu'il y a ailleurs. Et ça m'a amené en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Angleterre, et puis bien évidemment à Los Angeles.
Et comment vous avez fait alors, Jimmy Jean-Louis? Parce que vous n'aviez pas les réseaux à Los Angeles quand vous êtes arrivé.
Je me suis réinventé, j'ai trouvé les moyens, je me suis adapté, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait des petits rôles dans des productions où, qui valaient que dalle. Mais de l'autre côté, c'était des épreuves qui me faisaient grandir.
Quand vous voyez la situation actuelle à Haïti, qui est très, très, très difficile, comment vous le vivez? Je sais que vous êtes très impliqué, Jimmy Jean-Louis. Vous avez des associations humanitaires sur place. Comment ça se passe?
Ben c'est vrai que c'est dur quand on sait que c'est une île qui a été forgée par les flammes de la révolte. Et là, elle est tombée dans l'abandon total. Je peux dire depuis 30 ou 40 ans, la situation en Haïti a été très très dure, marquée par des dates très précises. Le séisme de 2010, 2004, le coup contre Aristide, 2021, l'assassinat de Jovenel Moïse. D'ailleurs, je viens d'incarner Jovenel Moïse dans un film, un président qui a été tué devant tout le monde et on n'arrive pas à trouver les vrais coupables.
Jimmy Jean-Louis avec Sophie Torlotin pour RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, on va en Martinique puisque le RPRAC et les syndicats sont main dans la main ce vendredi matin pour défiler ensemble contre la vie chère, Benoît Ferrand.
Le rassemblement contestataire et certaines organisations de défense des salariés partagent en effet le même point de vue sur l'accord conclu entre État, collectivités territoriales et grandes distributions. Pour eux, c'est du vent et de la poudre aux yeux, comme l'explique, sans embâge et sans prendre de gants, Ghislaine Joachin-Arnaud du syndicat CGTM. Elle est au micro de Dominique Legros.
L'accord qui est sorti là, il le permet à la grande distribution et à la CGM, CMA-CGM, de garder tout le magot pour eux qu'ils prélèvent sur la population depuis des années, des dizaines, des centaines d'années. C'est ça qui continue là. Et ça va continuer encore. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est les grands maîtres. C'est eux qui possèdent l'économie de la Martinique. Eh bien, nous, travailleurs, salariés, chômeurs, jeunes, retraités, étudiants, qui n'avons pas un pied que nous secouons pour nous donner de l'argent pour vivre, eh bien, il faut comprendre que nous avons une force dans la société. Et cette force-là, nous devons l'utiliser pour nous-mêmes. On ne peut pas enrichir d'autres. Et puis nous vivons dans la misère, dans le besoin, en train de calculer comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer l'eau, combien ceci, combien cela. Et mes enfants qui font des études, qu'est-ce que je fais pour eux? Non!
Et pendant ce temps-là, le président de la collectivité territoriale de la Martinique, signataire de l'accord en question, était lui reçu ce matin à Matignon par le Premier ministre Michel Barnier. L'occasion pour le président de la CTM de faire passer plusieurs messages au plus haut sommet de l'État. Écoutez Serge Letchimi au micro de Tiziana Marone.
Il n'y a pas qu'un regard sur la baisse des prix, c'est aussi un enjeu de société pour l'ensemble de la Martinique. Donc il s'agit pour moi aussi de poser une question très claire au plus haut niveau de l'État. Êtes-vous conscient que nos pays d'outre-mer partent à la dérive dans un système économique qui est très prédateur et qui crée des inégalités incroyables sous tissu de misère? Donc nous sommes dans une situation où il est extrêmement facile d'avoir un mécanisme économique d'importation massive avec deux exportations simplement majeures. Ce qui crée des inégalités. À ce titre-là, nous avons défendu l'idée d'avoir des fonds beaucoup plus lourds et importants pour la diversification agricole. Nous avons demandé d'avoir un regard extrêmement précis sur le futur et le Premier ministre l'a entendu. Pour s'attaquer à l'ensemble de l'alimentaire, il faut avoir des formules et des propositions structurantes.
Serge Letchimi, président de la collectivité territoriale de la Martinique. La manifestation du RPRAC et des syndicats devait s'ébranler à 8h locale, c'est-à-dire à 14h, heure de Paris. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, bon après-midi, bon week-end et à lundi. Il est 15h24 ici à Paris. RFI Midi touche petit à petit à sa fin, mais comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on poursuit notre périple musical à travers les États-Unis jusqu'à l'élection présidentielle dans 11 jours. Avant-dernier épisode où l'on remonte le Mississippi avec le livre Rock'n'Roll Trip, les États-Unis en 1000 chansons de Julien Grosso et de Laurie Kenton. Julien Grosso au micro de Julien Coquel-Rohem.
Julien
Julien, on se croirait presque dans un pogo aujourd'hui.
Ambiance de circonstance, car aujourd'hui, on va s'attarder sur les grands floués de l'histoire américaine, les Amérindiens.
Les grands floués ?
Oui, parce que jusqu'en 1492, ces peuples autochtones, arrivés en Amérique du Nord il y a quelques 20 000 ans par le détroit de Bering, eh bien, ils étaient chez eux. Et peu à peu, ils se sont retrouvés chez les autres.
Tout bascule donc avec l'arrivée de Christophe Colomb.
Car avant même d'apporter la guerre et les massacres, les explorateurs européens apportent avec eux des maladies, la grippe, la variole, qui déciment les populations locales. Et puis arrivent les premiers colons anglais au début du XVIIe siècle, qui s'installent sur la côte est. Et au début, la cohabitation est plutôt pacifique.
Neil Young avec sa chanson Pocahontas, héroïne de l'histoire amérindienne et américaine du XVIIe siècle.
Pocahontas, c'est une jeune amérindienne qui est devenue le symbole de la coexistence harmonieuse mais chimérique entre deux mondes. Contre l'avis de sa tribu, elle commence par aider les colons de Virginie dans leur installation, puis finit par tomber dans les bras de l'un d'entre eux, qui la ramène avec lui en Angleterre.
Un symbole, dites-vous, pourtant il y a d'autres exemples de cohabitation pacifique.
Oui, près de Plymouth, dans le Massachusetts, plus au nord, les pères pèlerins réussissent à la même période à coopérer avec les tribus autochtones. Mais à mesure que les colonies s'étendent, les choses finissent par déraper. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. We were all wounded at Wounded Knee, you and me. In the name of manifest destiny.
Le groupe Redbone, dont les membres sont tous d'origine amérindienne, avec le titre « We were all wounded at Wounded Knee ».
Autrement dit, la commémoration d'un des plus grands massacres d'Amérindiens de l'histoire des États-Unis qui s'est déroulé à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, le 29 décembre 1890. Ce jour-là, plus de 300 Indiens Lakota sont fusillés par l'armée américaine en raison d'un différend territorial.
Comme dans un western.
Mais pas comme au cinéma. Cet épisode tragique est l'illustration d'un calvaire de trois siècles durant lesquels les peuples amérindiens ont été condamnés à périr ou à être déportés toujours plus à l'ouest, où ils ne trouveront bien souvent qu'un triste refuge.
Paul Revere and the Raiders avec la chanson Indian Reservation en 1971.
Tout est dans le titre du morceau et surtout le sous-titre.
The Lament of the Cherokee Reservation Indian.
La complainte de l'Indien Cherokee dans sa réserve. La première réserve a été créée en 1758. Aujourd'hui, on en dénombre 326, principalement situés à l'ouest du Mississippi.
Tous les Amérindiens vivent-ils dans ces réserves ?
Eh bien non, ils sont environ 1 million sur les 10 millions de natives, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, à vivre dans des réserves. Il faut dire que le quotidien n'y est pas très réjouissant. Drogue, alcool, chômage en font des îlots de pauvreté et de détresse sociale, une autre face sombre de l'Amérique.
Avec un tel tableau, on imagine que le vote amérindien penche plutôt à gauche.
Depuis qu'ils ont acquis la citoyenneté américaine en 1924, et oui seulement, les natives votent en effet majoritairement démocrates, mais beaucoup ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et il n'y a que dans quelques états clés, comme l'Arizona, où les Navajos sont plusieurs centaines de milliers, que leur vote peut infléchir le résultat.
Plus que quelques jours à patienter avant le scrutin, on se quitte en musique, Julien ?
Avec Johnny Cash et l'une de ses plus belles chansons célébrant la cause des Amérindiens, sur un album, Bitter Tears, The American Indian, qui leur est entièrement dédié.
As long as the grass shall grow, l'hommage du Men in Black aux Premières Nations américaines. Julien, à vendredi prochain.
À vendredi, Julien.
Et c'est la fin de RFI Midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Vincent Biteau, à la réalisation, Emmanuel Klotz, à la rédaction en chef. Très bon week-end à l'écoute de la Radio du Monde.
Le goût du monde.
Clémence de Navy.
Saviez-vous que le poivre de Penja au Cameroun est le premier en Afrique à avoir été protégé par une indication géographique ? En dehors du Cameroun et de la zone du poivre de Penja, personne ne peut appeler son poivre ainsi. Idem pour l'attiéké des lagunes en Côte d'Ivoire ou l'ananas pain de sucre au Bénin. Mais comment ça marche ? Rendez-vous ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.